signes.
RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Julien Coquel-Rouen, bonjour à tous.
À la une, l'avenir sécuritaire des Européens et de l'Ukraine au menu d'un sommet à Londres aujourd'hui.
La réunion entre une quinzaine de dirigeants européens était prévue de longue date, mais elle a pris un virage radicalement différent depuis qu'un Donald Trump furieux a menacé Volodymyr Zelensky de laisser tomber l'Ukraine vendredi si un accord de paix n'était pas trouvé rapidement avec la Russie. Le Hamas réclame la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord de trêve prévu pour Gaza. Israël avait annoncé hier opter pour une nouvelle voie, un plan américain suggérant de prolonger le cessez-le-feu jusqu'à la mi-avril et modifiant les conditions de libération à des otages encore prisonniers du groupe islamiste. Les coupes massives dans le budget de l'Agence américaine de développement qui rongent les programmes d'action contre la faim en Afrique et puis la cérémonie des Oscars la nuit prochaine à Los Angeles aux États-Unis. Les pronostics d'Elisabeth Le Quéré en fin de journal.
Le soufflet américain à peine retombé, l'Ukraine se tourne tout entière vers Londres.
C'est dans la capitale britannique, en effet, que se retrouve aujourd'hui une quinzaine de dirigeants européens. Deux jours après cet échange hallucinant entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche, durant lequel le président américain avait menacé son homologue ukrainien de laisser tomber son pays si un accord de paix n'était pas trouvé rapidement avec la Russie. Ce sommet au Royaume-Uni, il était déjà prévu à l'agenda, mais il prend désormais une tournure de réunion de crise. Parmi la liste des participants, au sein de cette liste de participants, plutôt deux organisations, l'OTAN et l'UE, le président ukrainien également, Volodymyr Zelensky, la France, l'Allemagne, l'Italie ou encore la Pologne, bref, des poids lourds européens, Jean-Jacques Herry.
La plupart des participants qui seront présents aujourd'hui autour de la table ont publiquement soutenu l'Ukraine et son président après la déflagration qu'a été la scène du bureau ovale. Et aujourd'hui, dans la capitale britannique, ils doivent commencer à esquisser concrètement les contours d'une réponse et d'une posture commune face à une évolution géopolitique dans laquelle les États-Unis ne sont plus les protecteurs de l'Europe. Le risque, voir ces derniers se désengager de l'OTAN et donc la disparition du parapluie militaire et nucléaire américain. Un changement de paradigme total pour une Europe qui a tout à bâtir pour organiser ses outils de défense. À cet égard, l'idée d'une dissuasion nucléaire européenne partagée, demandée par l'Allemagne et dont la France se dit prête à discuter, pourrait être une piste, selon Alain Deneuve, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles.
À court terme, évidemment, la marge de manœuvre des Européens, elle est très étroite, voire pratiquement inexistante. La dimension européenne de la dissuasion nucléaire, elle pourrait permettre sans doute à l'Europe de gagner du temps pour reconstruire ses forces dans le cadre d'une protection supplémentaire et qui ne peut plus être celle qui était garantie autrefois par les États-Unis.
Se posera également la question du cadre dans lequel viendra s'inscrire la réponse européenne. OTAN, Union européenne, nouvelle structure. Une interrogation épineuse à laquelle il faudra pourtant commencer à répondre vite, très vite, pour des Européens qui doivent passer de la sidération à l'action, car le calendrier vient brusquement de s'accélérer. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Et face à ce risque de déchirement entre les États-Unis et l'Ukraine, le président français veut se faire porte-parole d'une Europe forte. Emmanuel Macron a partagé son point de vue sur la situation diplomatique dans plusieurs journaux. Hier, il analyse un moment grave, mais ne veut pas céder au fatalisme. Aurélien Devernois.
Il est minuit moins le quart avant une possible catastrophe, alerte Emmanuel Macron. L'esclandre entre les présidents ukrainiens et américains est évidemment inquiétant, selon le chef de l'État, mais pas question pour autant de faiblir. Ce qui s'est passé dans le bureau ovale contribue à la prise de conscience collective, estime Emmanuel Macron, qui déclare s'être entretenu dès vendredi soir par téléphone avec Volodymyr Zelensky et Donald Trump. De ces conversations, il ne laisse filtrer aucun détail, mais avertit, si les États-Unis concluaient un cessez-le-feu seulement avec la Russie, cela contreviendrait au droit international, ce serait une rupture profonde et, craint-il, un signal donné à Moscou pour aller plus loin, vers la Moldavie, voire la Roumanie. Ce n'est pas l'intérêt de Washington, assène le président français, tout en poussant pour une action rapide de l'Union européenne en faveur d'une défense commune. C'est le moment du réveil stratégique européen, juge Emmanuel Macron, qui s'interroge, veut-on choisir ou subir notre destin ? D'où l'importance des rendez-vous des prochains jours, le sommet européen de Londres ce dimanche, puis le Conseil de l'Europe l'Europe jeudi à Bruxelles. Emmanuel Macron, qui entend bien à ces occasions placer la France au centre du jeu, forte de sa dissuasion nucléaire.
Explication d'Aurélien de Vernon.
Washington, dans le même temps, qui accentue son soutien à Israël.
Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a en effet approuvé cette nuit l'envoi de 4 milliards de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'État hébreu. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé valider également un plan américain pour prolonger la trêve à Gaza jusqu'à la mi-avril. Cette proposition inclut la libération de la moitié des otages restant morts ou vivants au premier jour de son entrée en vigueur et que l'autre moitié soit elle relâchée à la fin, et ce si un accord de cessez-le-feu permanent est trouvé. Israël s'est dit donc prêt à entamer de nouvelles négociations au lendemain de l'expiration de la première phase prévue de cet accord de trêve, mais ce matin, le Hamas a exigé que la seconde phase soit mise en œuvre comme prévu. Le plan américain revenant pour Israël à, je cite, se soustraire aux accords qu'il a signés. L'État hébreu qui menace aussi d'intervenir en Syrie si les nouvelles autorités ne mettent pas fin aux opérations contre les druzes. Des affrontements ont en effet eu lieu à Jaramana, hier en banlieue de Damas. Un membre de HTS est décédé. Dans ce quartier contrôlé par les druzes, cette situation qui menace de dégénérer effraie les habitants. Reportage à Damas de notre correspondant Mohamed Erami.
Après des affrontements armés dans la région de Jaramana, au sud de la capitale syrienne Damas, de nombreux habitants se sont retranchés chez eux par crainte des tirs violents. Quant à des centaines d'autres habitants de la zone, ils n'ont pas pu rentrer chez eux, comme Ali Sayed.
Quand le combat et les tirs cesseront-ils dans le pays? Nous en avons assez après toutes ces années de guerre. Aujourd'hui, je suis obligé de dormir loin de chez moi et de laisser ma femme et mes enfants seuls à la maison. Les forces de sécurité ne devraient pas être impliquées dans des affrontements armés dans les zones civiles. Nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe. Pourquoi devrais-je fuir la guerre et dormir loin de ma famille et de ma maison?
La nouvelle administration syrienne a déployé des centaines de combattants dans la région de Jaramana, tandis que les miliciens druzes ont renforcé leur position pour faire face aux forces de police et de l'armée, selon le chef druze, Rabih Munzir.
Nous vivons ici et nous n'avons jamais demandé la protection de quiconque. Nous sommes des citoyens arabes syriens qui habitons cette terre depuis des siècles et nous avons de bonnes relations avec nos voisins. Nous resterons toujours ainsi.
L'administration nouvellement en place a installé des points de contrôle autour de Jaramana et a donné aux druzes un ultimatum de 5 jours pour remettre leurs armes aux autorités gouvernementales. Mohamed Erami, Damas, RFI.
L'assèchement des caisses de l'USAID pèse sur la lutte contre la malnutrition.
L'agence américaine de développement qui est amputée de 92% de ses fonds à la suite de décisions de l'administration Trump et qui ne peut notamment plus venir en aide à Action contre la faim. L'ONG va en effet être contrainte d'arrêter une cinquantaine de ses programmes dans une vingtaine de pays et de nombreux États africains sont concernés comme la RDC, le Nigeria, le Burkina Faso, le Cameroun ou encore le Niger. Écoutez Elodie Andro, elle est directrice des opérations à ACF, jointe au téléphone par Pierre Firsion.
Ce sont tous des programmes humanitaires d'urgence autour de la santé nutritionnelle, de la santé primaire des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes, mais aussi des programmes liés à l'eau et à la sanitation, et aussi en fait des programmes liés à la sécurité alimentaire. Par exemple, sur la RDC, en 2025, Action contre la faim, en collaboration avec le système de santé congolais, prévoyait de traiter 45 000 enfants sévèrement malnutris et d'apporter des soins de santé à 360 000 enfants. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on maintient le traitement des enfants sévèrement malnutris déjà admis dans nos structures jusqu'à fin avril. Par contre, nous sommes forcés, avec cet arrêt brutal, d'arrêter en fait les nouvelles admissions d'enfants malnutris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une maman qui se présente à l'un de nos centres, en fait, avec son enfant de moins de 5 ans sévèrement malnutri, et la plupart du temps avec des complications médicales, nous ne pouvons plus le prendre en charge. Et il n'y a pas d'autre alternative, ce qui fait que cet enfant est en danger de mort.
Elodie Andro, interrogée par Pierre Firsion. Action contre la faim appelle maintenant l'Europe à se positionner et incarner les valeurs du droit humanitaire international. L'ex-fugitif le plus recherché de France promis un avenir carcéral très rude, Mohamed Amra. a été arrêté il y a maintenant 8 jours en Roumanie, soit plus de 9 mois après son évasion ultra-violente lors d'un transfert de prison. Deux agents de l'administration pénitentiaire avaient alors été tués, rapatriés en France depuis. Il a été placé dans le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, considéré comme la prison la plus sécurisée de France. Mohamed Amra vit désormais à l'isolement. Il aura le droit à une heure de promenade par jour. Seul, les appels téléphoniques de ce détenu seront courts et écoutés par les services de renseignement. Et les visites qu'il recevra seront systématiquement fouillées dans cet établissement sous très haute surveillance, Laurence Théo.
Isolé en pleine campagne normande, le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe est réputé pour être une véritable forteresse, dotée de miradors, d'un double mur d'enceinte et de plusieurs centaines de caméras de surveillance. Mohamed Amra y est placé sous un régime d'isolement extrêmement strict, mais malgré cela, les surveillants prennent des précautions face à des détenus potentiellement très dangereux. Christophe de la CGT pénitentiaire donne un exemple.
On vient avec un chariot pour nourrir le détenu, pour lui offrir un repas. Vous avez trois agents équipés complets de la tête jusqu'aux pieds, avec les casques, avec les visières en plexiglas. Glace et tout, très très costaud, et tout ça pour distribuer un repas.
Si les agressions sont loin d'être quotidiennes, pour Christophe, la peur fait partie du métier de surveillant.
Vous savez, quand vous voyez des collègues qui se font attaquer au couteau en céramique, vous voyez ça, vous voyez un directeur hein, à coups de lame de rasoir, allongé par terre avec des filets de sang. Quand vous avez des collègues qui se font attaquer avec des gros pots de Nutella en plein visage, la peur, c'est pas forcément un mal, vous savez. La peur nous permet aussi de rester vigilants.
Condé-sur-Sarthe est l'un des 4 sites sélectionnés pour accueillir en juillet prochain les 100 plus gros narcotrafiquants détenus en France.
Laurence Théo, la dernière fois qu'un Burkinabé avait remporté les talons d'or de Yenenga, c'était il y a 28 ans, avec son film Katanga, où la danse des scorpions d'Annie Kouyaté succède donc à son compatriote Gaston Caboret, en remportant le plus prestigieux prix du FESPACO, le plus grand festival de cinéma africain qui était organisé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les talons d'argent revient au réalisateur somalien Mo Araoué, avec Le Village aux portes du paradis et le bronze à la zambienne Rungano Nioy pour devenir une pintade.
Et puis le rendez-vous mondial du 7e art, cette fois, c'est cette nuit.
Oui, à Los Angeles, la 97e cérémonie des Oscars qui rassemble, vous le savez, annuellement, le tout Hollywood. Nos pronostics avec Elisabeth Le Quéré.
C'était le favori, toutes catégories confondues, avec ses 13 nominations du jamais vu. Pour un film non anglophone, Emilia Pérez semblait tout naturellement appelée à voguer vers le sommet du podium. Mais une série de polémiques, a commencé par la résurgence de tweets racistes postés par son actrice principale, Carla Sofia Gascon, en a voulu autrement. Et le film de Jacques Audiard pourrait bien repartir les mains vides, ou presque, de la cérémonie. Désormais, c'est donc ailleurs que les regards se tournent, et d'abord vers The Brutalist et son réalisateur Brady Corbett. Cette fresque monumentale, portrait d'un architecte de génie, joué par Adrien Brody, a déjà amassé une pluie de récompenses et cumulé plus de 30 millions de dollars de recettes de par le monde. Sur ses talons, le thriller vaticaniste Conclave, et puis, bien sûr, le challenger Anora, celui que personne n'avait vu venir malgré sa palme d'or reçue à Cannes en mai dernier. Portrait d'une call girl aussi ambitieuse que déterminée, le film a mis en lumière son actrice, Mikey Madison, d'ores et déjà considérée comme une candidate toute désignée à l'Oscar de la meilleure actrice.
Elisabeth Le Quéré, bien sûr, nous suivrons les résultats de cette cérémonie des Oscars sur RFI. Je repasse la main à Julien Coquel-Rouet.
Et merci Paul Lansin-Spinelli, à tout à l'heure. RFI Matin, deuxième heure, et dans un peu plus de 15 minutes maintenant, un nouveau point sur l'actualité africaine et notre dossier du jour consacré à un spectacle en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 11 femmes dans un salon de beauté et une discussion sur les standards de beauté occidentaux imposés aux femmes noires. Reportage à suivre de Marine Janin. À suivre d'ici là notre tour du monde des correspondants, le début du Ramadan et 3 façons de le pratiquer dans 3 pays, l'Égypte, le Sénégal et l'Inde. Mais tout de suite les sports. Avec vous, Christophe Diremzian. Du football, le PSG toujours aussi intraitable en Ligue 1. Cette fois, c'est Lille qui en a fait les frais au Parc des Princes lors de la 24e journée.
Le rouleau compresseur parisien en action, ça donne des Lillois aplatis 4-1. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Désiré Doué au casting des buteurs, et Jonathan David pour sauver l'honneur des nordistes, bien moins rassurés que les joueurs de Luis Enrique avant de se lancer de part et d'autre dans une importante semaine européenne. Et si ça tournait au fiasco au Parc, c'est bien de ma faute, reconnaît l'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio.
C'est moi qui suis responsable en premier 100% de cette défaite, puisque c'est tous les choix de ce soir ont été mauvais. Voilà, sur les choix de jeu, sur tout ce qu'on a pu faire, notamment en première période. Je crois que dans ce genre de match, il faut faire beaucoup de choses très très bien pour espérer faire un résultat positif. Et surtout, il faut déjà mettre de l'engagement, ce qu'on n'a pas su faire en première mi-temps. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi on est complètement passé à côté de notre mi-temps. Peut-être qu'on a été tendu. Peut-être que l'entame de match nous a fait énormément de mal. Mais en tout cas, j'ai pas reconnu le visage de mon équipe.
L'autocritique sans concession, apparemment, de Bruno Genesio sur DAZN. Les Lillois vont maintenant quand même s'envoler pour Dortmund, où les attend le Borussia mardi pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Le lendemain, les Parisiens recevront Liverpool dans la peau de très confortable patron du championnat. 16 points d'avance ce matin sur Marseille, qui reçoit Nantes à 19h45 temps universel. Et Nice, vainqueur à Saint-Etienne, 3-1. De son côté, Le Havre s'est imposé à l'arraché à Lens, 4-3. Aujourd'hui, hormis le match de l'OM, Lyon-Brest, Auxerre-Strasbourg, Angers-Toulouse et Montpellier-Rennes.
En Espagne, le faux pas du Real Madrid dans la course au titre en Liga.
Pas très bienvenue cette défaite 2-1 sur la pelouse du Betis-Séville, 6e du classement. 3 points gaspillés dans cette lutte très serrée qui a profité hier à l'Atlético de Madrid, nouveau leader provisoire après sa victoire sur l'Athletic Bilbao 1-0. Mais le FC Barcelone peut reprendre la tête en recevant cet après-midi la Real Sociedad. Les Catalans brillants cette semaine en demi-finale aller de la Coupe du Roi contre l'Atlético, justement, en arrachant un spectaculaire 4-partout dans le temps additionnel. Le match de l'année selon les observateurs. De quoi ravir l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, ravi de l'image renvoyée par son équipe présente en ce moment sur tous les tableaux.
On donne tout. En ce moment, nous jouons 3 compétitions. Nous pouvons nous battre pour 3 titres. Lorsque la saison a commencé, personne ne pensait que nous pourrions en être là aujourd'hui, début mars. L'équipe se porte très bien. Cette semaine, en Coupe du Roi, le 4-partout contre l'Atlético. Ce que nous avons vu, et j'espère que vous l'avez vu aussi, c'est un match fantastique de notre équipe. Mais sur les 3e et 4e buts adverses, nous n'étions pas concentrés sur ces choses jusqu'à la fin. Nous devons faire beaucoup mieux en tant qu'équipe, nous en sommes conscients.
Hansi Flick avant Barça-Real Sociedad, coup d'envoi 15h15, temps universel. Pas de vainqueur dans le match au sommet de la 27e journée de Serie A italienne. Naples et l'Inter Milan se sont séparés sur un nul 1-1. En Bundesliga, 24e journée, le Bayer Leverkusen l'emporte à Francfort 4-1 et revient à 8 longueurs du Bayern Munich. Enfin, en Coupe d'Angleterre, Manchester City s'est qualifié pour les quarts de finale en venant à bout, tardivement, 3-1 de Plymouth Argyle, club de 2e division qui avait réussi l'exploit d'éliminer Liverpool au tour précédent.
Côté tennis, Stefanos Tsitsipas soulève son premier trophée depuis près d'un an.
Oui, le Grec a remporté le tournoi de Dubaï en battant en finale 6-3-6-3, l'un des joueurs en forme de ce début de saison. Le Canadien Félix Auger-Aliassime, c'est le 12e titre de la carrière de Tsitsipas, qui n'avait plus rien gagné depuis le Masters 1000 de Monte Carlo en avril 2024. Et ça va lui permettre de revenir demain dans le top 10 mondial.
Merci Christophe Diremzian. Et dans ligne de défense ce matin, l'armée française qui fait évoluer son treillis, le vêtement du quotidien qui rend identifiables ses soldats mais qui sert aussi à les camoufler. Fini donc les treillis désert jaune ou les treillis centre-Europe vert, place au BME pour bariolage multi-environnement. Ce sera le même pour tout le monde, un seul vêtement pour tous les théâtres et tous les climats aux couleurs soigneusement choisies, Franck Alexandre.
C'est une alternance de grandes et petites taches brisées avec un panachage de vert, un soupçon de kaki et un fond brun dit Terre de France. Très utile, ce Terre de France, insiste le commandant Stéphane, le doigt sur le nouveau treillis qu'il porte. Il est responsable du programme BME au sein de la section technique de l'armée de terre.
Il y a un peu de marron, un peu de brun, on appelle ça le brun Terre de France essentiellement, qui est la couleur majoritaire et qui est celle qui fusionne à la distance de portée des tirs.
Et il y a aussi du blanc, une première.
Absolument, d'ailleurs le blanc vous le voyez sur très très peu de treillis dans le monde, c'est un petit peu une caractéristique du BME. Le blanc il apporte en fait un contraste très fort. Le blanc, c'est le reflet du soleil sur une feuille dans la lisière.
Du blanc donc, mais cette fois pas de noir.
Le précédent treillis, en fait, fusionnait en noir. Et le noir dans la nature, il n'existe pas. Et c'est la couleur qui a le plus fort signalement aux infrarouges et même à l'œil nu. Donc, il a été retiré. C'était en fait une faiblesse technique pour le centre Europe.
Un treillis à la place de deux. L'objectif est de simplifier la logistique. Et pour y parvenir, 6 ans d'études et de tests auront été nécessaires, souligne le commissaire en chef Nicolas de la division habillement au sein des armées.
Oui, ça prend du temps parce que, par exemple, le blanc, pour avoir cet effet de dissimulation, techniquement, il est difficile à mettre au point puisque le tissu est assez technique. Il incorpore des fibres d'aramide qui donnent une protection au feu. On dit que le tri est thermostable. Ensuite, on a la phase d'approvisionnement du tissu. On a dû en commander 3,5 millions de mètres linéaires. Et une fois qu'on a approvisionné le tissu, on le donne à d'autres types d'industriels qui vont nous confectionner les tenues. Ce qui a été important pour nous, c'est d'avoir le temps de constituer un stock suffisant pour qu'ensuite la manœuvre de distribution se passe de façon fluide et pilotée. Une fois que le bouton on a été enclenché, ça ne s'arrête jamais.
750 000 treillis ont été commandés. Deux industriels français produisent le tissu qui est ensuite coupé en Bulgarie avec quelques modifications, indique le commandant Stéphane.
On a rajouté de l'ergonomie en fait au treillis F3. Tout d'abord, dans la poche de poitrine, plutôt que d'avoir du tissu en fond de poche, nous avons mis un tissu mèche, donc c'est un tissu qui est aéré. Ensuite, nous avons rajouté une poche qui se superpose à la poche cargo que nous avons sur la cuisse. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre verticalement. Lorsque nous avons un genou à terre, nous pouvons accéder à cette poche et récupérer une checklist ou un message à envoyer sans avoir besoin de se relever pour aller le récupérer.
Ce treillis BME sera en dotation pour au moins 30 ans, les unités en opération seront les premières équipées et comme le veut la tradition, le chef d'état-major des armées sera le dernier à percevoir le sien.
Franck Alexandre pour Ligne de Défense. Premier jour d'effort et une première rupture du jeûne à la nuit tombée pour les musulmans du monde entier. C'est parti pour un mois de Ramadan, l'un des cinq piliers de l'islam et le seul mois dont le nom figure dans le Coran. Mois de charité, de prière, de retrouvailles pour les fidèles avec une règle commune pour tous. S'abstenir de boire et de manger de l'aube au coucher du soleil. Mais selon les pays où il est pratiqué, les coutumes peuvent diverger, se mêlant à d'autres traditions locales. C'est notre tour du monde des correspondants qu'on débute cette semaine en Égypte avec plus de 100 millions de musulmans. Aujourd'hui, l'Égypte est le berceau des traditions arabes du Ramadan, un héritage qui remonte à plus de 1000 ans quand les chiites régnaient sur une vallée du Nil sunnite. Alexandre Bouchianti.
Le symbole par excellence du Ramadan est le fanous, la lanterne aux vitres colorées. Elle orne les devantures et les maisons. Dans les quartiers populaires, les enfants munis de fanous quêtent des friandises en chantant « Wahoui ya Wahoui ». Ramadan est en effet le mois de la générosité. Près de la moitié des dons annuels aux organisations caritatives sont faits durant le Ramadan. Les mosquées, les boutiques et les particuliers organisent aussi les tables du miséricordieux. Des tables dans la rue où quiconque peut profiter d'un iftar gratuit avec viande et poulet. Mais Ramadan est aussi le mois de la surconsommation de nourriture, ce qui provoque automatiquement une hausse des prix et parfois même l'endettement.
Alexandre Bouchianti au Caire, cap à présent sur le Sénégal où le Ramadan commence pour une majorité de pratiquants ce dimanche. Pour une majorité, car c'est la première particularité au pays de la Teranga. Tous les musulmans ne commencent pas le Ramadan en même temps, Juliette Dubois.
Comme chaque année, les différentes confréries soufis n'arrivent pas à s'accorder au Sénégal. Deux dates ont donc été retenues pour le début du Ramadan, selon les instructions de deux comités d'observation du croissant lunaire distincts. Une partie des musulmans, la famille omarienne, commence le 1er mars, tandis que la majorité démarre le 2 mars. Pour les soufis, c'est un mois tourné vers la spiritualité et l'ouverture. La minorité chrétienne partage les célébrations, en particulier lorsque le Ramadan coïncide avec le carême. Les voisins et amis chrétiens sont souvent invités à partager le repas du soir, l'iftar, appelé le ndougou en wolof. On mange d'abord du pain, des dattes et une bouillie de mil pour couper le jeûne avant d'attaquer les grands plats à partager comme le tiéboudienne. Si la plupart des Sénégalais mangent en famille, les buffets ndougou rivalisent d'opulence dans les restaurants chics de la capitale. Et puis les paniers de Ramadan sont comme dans d'autres pays très répandus et selon la tradition sénégalaise du soukérou-kor, les femmes mariées doivent en offrir à leur belle famille, une charge financière importante, parfois source de stress.
Juliette Dubois à Dakar et puis dernière étape en Inde, pays à majorité hindoue mais qui abrite quand même la troisième population musulmane au monde. Ici aussi, le mois prochain sera marqué par le Ramadan, Combustin.
Oui, dans les grandes villes indiennes, les quartiers musulmans vont être animés tard le soir. Les mosquées organisent des prières et des campagnes de collecte d'argent et de vêtements pour les plus démunis. Après le jeûne qui dure environ 15 heures ici, place à un festival de cuisine musulmane indienne. Les kebabs, brochettes de poulet et de mouton, plus rarement de bœuf ici, les beignets pakora ou samoussa, les ragouts appelés halim et de nombreux desserts où le lait, les dattes, les fruits à coque et les épices indiennes comme la cardamome sont à l'honneur. L'ambiance du Ramadan varie dans un pays grand comme l'Inde. Dans la capitale New Delhi, c'est une frénésie de shopping. Dans le Kerala, où la population musulmane est très importante, la rupture du jeûne se fait par endroits avec les fidèles hindous.
Comme Bastin en Inde pour notre tour du monde des correspondants que vous retrouvez sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Bientôt 6h30 en temps universel avant le journal Afrique. Dans 5 minutes, on retourne au Salon de l'agriculture qui se termine aujourd'hui à Paris. Cette semaine, Sedenta Nature est allée rencontrer Oupette, la vache égérie de cette édition. Car les vaches sont les animaux les plus populaires de la ferme et chaque année, l'une d'entre elles est choisie pour être la star du salon, Florent Guignard.
C'est elle la star ? On nous a dit qu'il y avait une star.
Et oui, la star est là, devant nous, devant des dizaines de visiteurs qui se pressent autour d'une double barrière en bois pour voir Oupette, la vache égérie du salon de l'agriculture à Paris.
Effectivement, on est venu voir Oupette parce qu'on en parle partout à la télé, etc. Donc on va toujours voir la star du salon. Cette année, c'est Oupette.
Oupette. Ah oui, Oupette Choupette. 1021 kilos. Plus d'une tonne. Oh my god.
Mais pourquoi Oupette s'appelle Oupette, la vache, décidément très star, a refusé de répondre à nos questions. Alors on s'est tourné vers son éleveur, Alexandre Humeau.
Alors Oupette, quand elle est née, elle avait déjà sa petite Oupette sur la tête. Et du coup, c'est Oupette sans H, car c'était l'année des hauts. C'est un peu comme les chiens et les chats, il y a une lettre en fonction de l'année de naissance.
C'est bon ? Une photo.
Ouais. On se prend selfie.
Parce que c'est la star du salon.
Le salon de l'agriculture choisit chaque année une vache comme égérie. Une année, c'est une vache laitière pour le lait. Et l'année suivante, une vache allaitante pour la viande. C'est le cas de Oupette. Une limousine, une vache généreuse à la robe de couleur roux-brun. La deuxième race bovine en France, il y en a plus d'un million.
Ils se posaient la question pour savoir si est-ce qu'il fallait mettre un autre animal ou quoi. Et quand ils ont demandé à la population, aux visiteurs, pour eux, l'animal du salon, c'était vraiment emblématique, c'était vraiment la vache. Les gens sont attirés par la vache.
Et la vache est si mignonne qu'on en oublierait que l'élevage bovin est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, même si une large partie est compensée par les prairies, des puits de carbone performants.
Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi.
Vachement à l'aise devant les objectifs, Oupette sait se faire désirer, elle s'est couchée dans le foin, tant pis pour les photos.
Attends, tu vois pas la Oupette, t'as raté la Oupette. Non, c'est bon, tu l'as eu.
Mais soudain, la star se relève pour son public.
Ah, bravo. On l'applaudit. On a traversé tout le salon juste pour elle, merci.
Depuis 10 000 ans, les humains élèvent des vaches pour leur peau, leur viande, leur lait et même leur bouse. Alexandre Humeau.
Oui, dans une ferme, c'est vrai que la vache a un rôle central parce qu'elle mange de l'herbe, donc elle participe donc à entretenir les territoires. Le fumier est utilisé pour fertiliser donc les céréales, les cultures. Donc tout est consommé, tout est recyclé. Donc pour moi, c'est un très bon animal.
Et très patient, des heures et des heures de représentation pour la star du salon qui a même sa doublure pour aller respirer de temps en temps. Bonne nouvelle pour Oupette qui va échapper à l'abattoir, Alexandre Humeau.
Là, le fait qu'elle soit égérie du salon de l'agriculture, c'est une vache qui va être graciée, quoi. Elle finira ses jours dans l'exploitation.
Une semaine de célébrité, c'est une promesse d'éternité.
Je suis une vache à lait, voyez combien je donne. Je suis généreuse à souhait, je produis comme personne. Mon Dieu, que le monde m'aime, tout le monde se m'arrache. Je suis sûre que je suis la crème, oui, la crème des vaches. Ça me regarde le derrière, puis ça pense au bacon. Ça a du foin plein leur terre, faut que je beugle pour que ça m'en donne. Je le sais que c'est pas des anges, j'ose pas trop me choquer. Je suis convaincue que ça mange de la vache enragée. Ça me met sur la paille, puis ça part en voyage. Ça me traite comme du bétail voué à l'abattage. L'attirance sans borne que j'éprouve envers eux, c'est peut-être dû à leur corne ou à leur face de bœuf. Je suis une vache à lait, entendez-vous ma cloche? Gueuling, gueuling, tout le monde, venez si vous êtes croche. Je suis une vache à lait, venez, je suis aimable. Venez, c'est à mes frais. Bienvenue dans mon étable.
Florent Guignard pour Sedenta Nature et le Salon de l'agriculture où on retourne dans le journal Afrique avec le succès des produits du monde, des stands, notamment africains. A tout de suite, le journal est dans une minute.
tout à l'heure sur RFI, idée, Pierre-Edouard Deldic.
L'insurrection des particularités, c'est le titre du dernier livre en date de la philosophe Chantal Delsol. Le remplacement de la lutte des classes par le conflit des identités traduit le nombrilisme présent, écrit-elle. Nous en parlons dans une nouvelle conversation.
Pierre-Edouard Deldic avec idée, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI et à tout moment sur RFI.fr ou sur votre application de podcast préférée. Le Club RFI, Éric Amien.
Cette semaine, le Club RFI Ouida du Bénin parle d'une formation sur les énergies renouvelables au profit de 15 jeunes de la ville. Il y a un intérêt croissant pour les énergies renouvelables sur le continent africain. Le Club RFI Ouida et ses partenaires estiment que former des jeunes est une solution durable face aux défis énergétiques.
Le Club RFI, Éric Amien.
Tout à l'heure, à partir de 19h.